Chapitre 12. Pitou révolutionnaire. Madame Billot abdique, ce qui décide Pitou à quitter la ferme. Pitou voulut, après avoir satisfait au premier devoir de l'obéissance, satisfaire les premiers besoins de son cœur. C'était une bien douce chose que d'obéir lorsque l'ordre du maître réalise toutes les secrètes sympathies de celui qui obéit. Il prit donc ses jambes à son cou et, suivant la petite ruelle qui va du Pleu à la rue de Launay, faisant comme une ceinture verte de ses deux haies à ce côté de la ville, il se jeta à travers champs pour arriver plus vite à la ferme de Pisseleux. Mais bientôt sa course se calma, chaque pas lui rappelait un souvenir. Quand on entre dans la ville ou dans le village où l'on est né, on marche sur sa jeunesse, on marche sur ses jours passés, qui s'étendent, comme dit le poète anglais, ainsi qu'un tapis sous les pieds pour faire honneur au voyageur qui revient. On retrouve à chaque pas un souvenir dans un battement de son cœur. Ici, l'on a souffert, là, on a été heureux, ici, on a sangloté de douleur, là, on a pleuré de joie. Et puis tout, qui n'était pas un analyste, fut bien forcé d'être un homme. Il amassa du passé tout le long de la route et il arriva, l'âme pleine de sensations, à la ferme de la mère Billot. Quand il aperçut à 100 pas de lui la longue arête des toits, quand il mesura des yeux les ormes séculaires qui se tordent pour regarder d'en haut fumer les cheminées moussues, quand il entendit le bruit lointain des bestiaux qui vivent et parlent, des chiens qui grognent, des chariots qui roulent, il redressa son casque sur sa tête, affermit à son côté son sabre de dragon et tâcha de se donner une brave tournure telle qu'il convient à un amoureux et à un militaire. Personne ne le reconnut d'abord, preuve qu'il réussit assez bien. Un valet faisait boire les chevaux à la mare, il entendit du bruit, se retourna, et à travers la tête ébouriffée d'un saule, il aperçut Pitou, ou plutôt un casque et un sabre. Le valet demeura frappé de stupeur. Pitou, en passant près de lui, appela « Hé, Barnaud ! Bonjour, Barnaud » dit-il. Le valet, saisi de voir que ce casque et ce sabre savaient son nom, ôta son petit chapeau et lâcha la longe de ses chevaux. Pitou passa en souriant. Mais le valet ne fut pas rassuré. Le sourire bienveillant de Pitou était resté enseveli sous son casque. En même temps, la mère Billot, par la vitre de sa salle à manger, aperçut ce militaire. Elle se leva. On était alors en alerte dans les campagnes, il se répandait des bruits effrayants, on parlait de brigands qui abattaient les forêts et coupaient les récoltes vertes encore. Que signifiait l'arrivée de ce soldat? Était-ce attaque? Était-ce secours? La mère Billot avait embrassé d'un coup d'œil Pitou dans tout son ensemble. Elle se demandait pourquoi des choses si villageoises avec un casque si brillant. Et, faut-il le dire, elle penchait dans ses suppositions autant du côté du soupçon que du côté de l'espoir. Le soldat, quel qu'il fût, entra dans la cuisine. La mère Billot fit 2 pas vers le nouveau venu, puis tout de son côté, pour ne pas être en arrière de politesse, ôta son casque. « Ange Pitou, fit-elle, ange, ici !»« Bonjour, Mame Billot, répondit Pitou. « Ange, oh mon Dieu, mais qui donc aurait deviné? Tu t'es donc engagé ?»« Oh, engagé, fit Pitou, et il sourit avec supériorité. Puis il regarda autour de lui, cherchant ce qu'il ne voyait pas. La mère Billot sourit, elle devina le but des regards de Pitou. Puis, avec simplicité, « Tu cherches Catherine, » dit-elle. « Pour lui rendre mes devoirs, » répliqua Pitou. « Oui, madame Billot. Elle fait sécher le linge. Voyons, assieds-toi, regarde-moi, parle-moi. « Je veux bien, » dit Pitou. « Bonjour, 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 madame Billot. » Et Pitou prit une chaise. Autour de lui se groupèrent, aux portes et sur les degrés des escaliers, toutes les servantes et les métayers, attirés par le récit du valet d'écurie. Et à chaque nouvelle arrivée, on entendait chuchoter « C'est Pitou ? Oui, c'est lui ! Ah !» Et Pitou promena son regard bienveillant sur tous ses anciens camarades. Son sourire fut une caresse pour la plupart. Et tu viens de Paris, ange, continua la maîtresse de la maison. Tout droit, madame Billot. Comment va votre maître? Oh, très bien, madame Billot. Comment va Paris? Très mal, madame Billot. Ah, et le cercle des auditeurs se rétrécit. Le roi? Demanda la fermière. Pitou secoua la tête et fit entendre un clappement de langue fort humiliant pour la monarchie. « La reine ?» Pitou, cette fois, ne répondit absolument rien. « Oh !» fit madame Pitou. « Oh !» répéta le reste de l'assemblée. « Voyons, continue, Pitou !» dit la fermière. « Dame, interrogez-moi !» répondit Pitou, qui tenait à ne pas dire en l'absence de Catherine tout ce qu'il rapportait d'intéressant. « Pourquoi as-tu ce casque ?» demanda madame Billot. « C'est un trophée, » dit Pitou. « Qu'est-ce qu'un trophée, mon ami ?» demanda la bonne femme. « Ah, c'est vrai, madame Billot, » fit Pitou avec un sourire protecteur. « Vous ne pouvez pas savoir ce qu'est un trophée, vous. Un trophée, c'est quand on a vaincu un ennemi, madame Billot. »«
Tu as donc vaincu un ennemi, Pitou ?»
« Hein ?» dit dédaigneusement Pitou. « Ah, ma bonne madame Billot, vous ne savez donc pas que nous avons pris la Bastille à nous deux, monsieur Billot et moi ?»
Ce mot magique électrisa l'auditoire. Pitou sentit les souffles des assistants sur sa chevelure et leurs mains sur le dossier de la chaise.
« Raconte, raconte un peu ce que notre homme a fait, » dit madame Billot, toute fière et toute tremblante à la fois. Pitou regarda encore si Catherine arrivait, elle n'arrivait pas. Il lui parut offensant que, pour des nouvelles fraîches apportées par un courrier pareil, mademoiselle Billot ne quitta point son linge. Pitou secoua la tête, il commençait à être mécontent.
« Ce que c'est bien long à raconter, » dit-il.
« Et tu as faim ?» demanda madame Billot.
« Peut-être bien. »«
Soif ?
Je ne dis pas non. »
Aussitôt, valets et servantes de s'empresser, de sorte que Pitou rencontra sous ses mains gobelets, pains, viandes et fruits de toutes sortes, avant d'avoir réfléchi à la portée de sa demande. Pitou avait les foies chauds, comme on dit à la campagne, c'est-à-dire qu'il digérait vite, mais si vite qu'il digéra, il n'en pouvait avoir fini déjà avec le coq de tante Angélique, dont la dernière bouchée n'était pas absorbée depuis plus d'une demi-heure. Ce qu'il avait demandé ne lui fit donc pas gagner tout le temps qu'il espérait, tant il fut servi rapidement. Il vit qu'il fallait faire un effort supérieur et se mit à manger, mais, quelle que fût sa bonne volonté de continuer, au bout d'un instant, force lui fut de s'arrêter.
« Qu'as-tu ? » demanda madame Billot.
« Dame, j'ai que... »«
À boire pour Pitou !»«
Mais j'ai du cidre, madame Billot !» Mais peut-être aimes-tu mieux l'eau de vie?
L'eau de vie?
Oui. Es-tu accoutumé d'en boire à Paris? La brave femme supposait que pendant ses 12 jours d'absence, Pitou avait eu le temps de se corrompre. Pitou repoussa fièrement la supposition.
De l'eau de vie, dit-il, moi, jamais.
Alors parle. Mais si je parle, dit Pitou, il faudra que je recommence pour mademoiselle Catherine, et c'est long. Deux ou trois personnes se précipitèrent vers la buanderie pour aller chercher mademoiselle Catherine. Mais, tandis que tout le monde courait du même côté, Pitou, machinalement, tourna les yeux vers l'escalier qui conduisait au premier étage, et le vent d'en bas ayant fait courant d'air avec le haut, il aperçut par une porte ouverte Catherine qui regardait par la fenêtre. Catherine regardait du côté de la forêt, c'est-à-dire du côté de Boursonne. Catherine était tellement absorbée dans sa contemplation que rien de tout ce mouvement ne l'avait frappée, que rien de l'intérieur n'avait appelé son attention tout à ce qui se passait dehors.
« Ah !» dit-il en soupirant, « du côté de la forêt, du côté de Boursonne, du côté de monsieur Isidore de Charny, oui, c'est cela !» Et il poussa un second soupir, plus lamentable encore que le premier.
En ce moment, les messagers revenaient, non seulement de la buanderie, mais de tous les endroits où pouvait être Catherine.
« Eh bien, » demanda madame Billot, « nous n'avons pas vu mademoiselle. »«
Catherine ! Catherine !» cria madame Billot. La jeune fille n'entendait rien.
Et Pitou alors se hasarda à parler. « Madame Billot, dit-il, je sais bien pourquoi on n'a pas trouvé Mademoiselle Catherine à la buanderie, moi. Et pourquoi ne l'y a-t-on pas trouvée ? Eh, dame, c'est qu'elle n'y est pas. Tu sais donc où elle est, toi ?
Oui.
Où est-elle ? Elle est là-haut. » Et prenant la fermière par la main, il lui fit monter les trois ou quatre premières marches de l'escalier et lui montra Catherine, assise sur le rebord de la fenêtre, dans l'encadrement des volubilis et des lières. « Elle se coiffe, » dit la bonne femme. « Hélas non, elle est toute coiffée, » répondit mélancoliquement Pitou. La fermière ne fit point attention à la mélancolie de Pitou, et d'une voix forte, elle l'appela « Catherine ! Catherine !» La jeune fille, tressaillie, surprise, ferma rapidement sa fenêtre et dit « Qu'y a-t-il ? Mais viens donc, Catherine !» s'écria la mère Billot, ne doutant point de l'effet qu'allaient produire ces paroles. « C'est Ange qui arrive de Paris !» Pitou écouta avec anxiété la réponse qu'allait faire Catherine. « Ah !» fit Catherine froidement, si froidement que le cœur manqua au pauvre Pitou. Et elle descendit l'escalier avec le flegme qu'ont les Flamandes dans les tableaux de Van Ostade ou de Brouwer. « Tiens, dit-elle en touchant le plancher, c'est lui. » Et Pitou s'inclina, rouge et frissonnant. « Il a un casque, dit une servante à l'oreille de sa jeune maîtresse. Pitou entendit le mot et en étudia l'effet sur le visage de Catherine. Un charmant visage, un peu pâli peut-être, mais encore plein et velouté. Mais Catherine ne montra aucune admiration pour le casque de Pitou. « Ah, il a un casque, dit-elle, pourquoi faire ?» Cette fois, l'indignation l'emporta dans le cœur de l'honnête garçon. « J'ai un casque et un sabre, dit-il avec fierté, parce que je me suis battu et que j'ai tué des dragons et des Suisses. Et si vous en doutez, mademoiselle Catherine, vous demanderez à votre père. Voilà tout. » Catherine était si préoccupée qu'elle ne parut entendre que la dernière partie de la réponse de Pitou. « Comment va mon père ? » demanda-t-elle. « Et pourquoi ne revient-il pas avec vous ? Est-ce que les nouvelles de Paris sont mauvaises ?»«
Très mauvaises, » dit Pitou.
« Oh, je croyais que tout s'était arrangé, » objecta Catherine.
« Oui, c'est vrai, mais tout s'est dérangé, » répondit Pitou.
« Est-ce qu'il n'y a pas eu l'accord du peuple et du roi, le rappel de Monsieur Necker ?»«
Il s'agit bien de Monsieur Necker, » dit Pitou avec suffisance.
« Cela, pourtant, a satisfait le peuple, n'est-ce pas ?»«
Si bien satisfait que le peuple est en train de se faire justice et de tuer tous ses ennemis. »«
Tous ses ennemis ?» s'écria Catherine, étonnée. « Et quels sont les ennemis du peuple ?»«
Les aristocrates, donc, » fit Pitou.
Catherine pâlit. « Mais... « Qu'appelle-t-on les aristocrates ? » demanda-t-elle.
« Mais, dame, ceux qui ont de grosses terres, ceux qui ont de beaux châteaux, ceux qui affament la nation, ceux qui ont tout, quand nous, nous n'avons rien. »
« Encore, » fit impatiemment Catherine, « les gens qui ont les beaux chevaux et les belles voitures, quand nous, nous allons à pied. »
« Mon Dieu !» s'écria la jeune fille, pâlissant de manière à devenir livide.
Pitou remarqua cette altération dans ses traits.
« J'appelle aristocrate des personnes de votre connaissance. »«
De ma connaissance ?»«
De notre connaissance ?» dit la mère Billot.
« Mais qui donc cela ?» insista Catherine.
« Monsieur Berthier de Savigny, par exemple. »«
Monsieur Berthier de Savigny ?»«
Qui vous a donné les boucles d'or que vous portiez le jour où vous dansiez avec Monsieur Isidore ?»«
Eh bien ?»
« Eh bien, j'ai vu des gens qui mangeaient son cœur, moi qui vous parle. »
Un cri terrible s'échappa de toutes les poitrines. Catherine se renversa sur la chaise qu'elle avait prise.
« Tu as vu cela ?» dit la mère Billot, tremblante d'horreur.
« Et Monsieur Billot aussi l'a vu. »
« Oh, mon Dieu !
Oui, à l'heure qu'il est, » continua Pitou, « on doit avoir brûlé ou tué tous les aristocrates de Paris et de Versailles. »
« C'est affreux, » murmura Catherine.
« Affreux, mais pourquoi donc ? Vous n'êtes pas une aristocrate, vous, Madame Billot ?»«
Monsieur Pitou, » dit Catherine avec une sombre énergie, « il me semble que vous n'étiez pas si féroce avant de partir pour Paris. »«
« Je ne le suis pas davantage, mademoiselle, » dit Pitou, fort ébranlé. « Mais alors ne vous vantez pas des crimes que commettent les Parisiens, puisque vous n'êtes pas Parisien et que vous n'avez pas commis ces crimes. » « Je les ai si peu commis, » dit Pitou, « que Monsieur Billot et moi, nous avons failli être assommés en défendant Monsieur Berthier. »« Oh, mon bon père, mon brave père, je le reconnais bien là !» s'écria Catherine exaltée. « Mon digne homme, » dit la mère Billot, les yeux humides, « et qu'a-t-il donc fait ?» Pitou raconta la terrible scène de la place de Grève, le désespoir de Billot et son désir de revenir à Villers-Cotterêts. « Que n'est-il revenu alors ?» dit Catherine avec un accent qui remua profondément le cœur de Pitou, comme un de ces présages sinistres que les devins savaient faire pénétrer si profondément dans les cœurs. La mère Billot joignit les mains. « Monsieur Gilbert n'a pas voulu, » dit Pitou. « Monsieur Gilbert, veut-il donc qu'on tue mon homme ?» dit Madame Billot en sanglotant. Veut-il que la maison de mon père soit perdue? Ajouta Catherine avec le même ton de sombre mélancolie. Oh, non pas, fit Pitou. Monsieur Billot et Monsieur Gilbert se sont entendus. Monsieur Billot va rester quelque temps encore à Paris pour finir la révolution. À eux seuls, comme cela? Dit la mère Billot. Oh non, avec Monsieur de Lafayette et Monsieur Bailly. « Ah !» fit avec admiration la fermière, « du moment qu'il est avec Monsieur de Lafayette et avec Monsieur Bailly. »« Qu'en pense-t-il revenir ?» demanda Catherine. « Oh, quant à cela, mademoiselle, je n'en sais rien. »« Et toi, Pitou, comment es-tu revenu alors ?»« Moi, j'ai amené à l'abbé Fortier Sébastien Gilbert, et je suis venu ici apporter les instructions de Monsieur Billot. » Pitou, en achevant ces mots, se leva, non sans une certaine dignité diplomatique qui fut comprise, sinon par les serviteurs, du moins par les maîtres. La mère Billot se leva aussi et congédia son monde. Catherine, restée assise, étudia jusqu'au fond de l'âme la pensée de Pitou avant qu'elle ne sortît de ses lèvres. « Que va-t-il me faire dire ?» se demanda-t-elle. Pour écouter les volontés de ce père honoré, les deux femmes réunirent toute leur attention. Pitou n'ignorait pas que la tâche était assez difficile. Il avait vu à l'œuvre la mère Billot et Catherine. Il connaissait l'habitude du commandement chez l'une, la féroce indépendance chez l'autre. Catherine, fille si douce, si laborieuse, si bonne, avait pris, par l'effet même de toutes ses qualités, un énorme ascendant sur tout le monde dans la ferme, et qu'est-ce que l'esprit de domination, sinon une ferme volonté de ne pas obéir. Et Pitou, en exposant sa mission, savait tout le plaisir qu'il allait faire à l'une et tout le chagrin qu'il causerait à l'autre. La mère Billot, réduite au rôle secondaire, lui paraissait une chose anormale, absurde. Cela grandissait Catherine par rapport à Pitou, et Catherine n'avait pas besoin de cela dans les circonstances présentes. Mais il représentait à la ferme un des héros d'Homère, une bouche, une mémoire, non pas une intelligence. Il s'exprima en ces termes. « Madame Billot, le dessein de Monsieur Billot est que vous vous tourmentiez le moins possible. »« Comment cela ?» fit la bonne femme avec surprise. « Que veut dire ce mot « tourmenté » ?» dit la jeune Catherine. « Cela veut dire, » répondit Pitou, « que l'administration d'une ferme comme la vôtre est un gouvernement plein de soucis et de travail, qu'il y a des marchés à faire. »« Eh bien, » fit la bonne femme, « des paiements. »« Eh bien !» Des labours, après des récoltes, mais qui dit le contraire? Personne, assurément, Madame Billot, mais pour faire les marchés, il faut voyager. J'ai mon cheval. Pour payer, il faut se disputer. Oh, j'ai un bon bec. Pour labourer, n'ai-je pas l'habitude des surveillances? Et pour récolter, ah, c'est bien une autre affaire. Il faut faire la cuisine aux ouvriers, il faut aider les charretiers. « Mais tout cela ne m'effraie pas pour le bien de mon homme !» s'écria la digne femme. « Mais, Madame Billot, enfin... »« Enfin quoi ? Tant de travail et un peu d'âge ?»« Ah !» fit la mère Billot en regardant Pitou de travers. Aidez-moi donc, mademoiselle Catherine, dit le pauvre garçon, voyant ses forces diminuer à mesure que la situation devenait plus difficile.
Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour vous aider, dit Catherine.
Eh bien, voici, répliqua Pitou, monsieur Billot n'a pas choisi madame Billot pour se donner tant de mal.
Qui donc? Interrompit-elle en tremblant à la fois d'admiration et de respect.
Il a choisi quelqu'un qui est plus fort et qui est lui-même et qui est vous-même. Il a choisi mademoiselle Catherine.
Ma fille Catherine, pour gouverner la maison?
S'écria la vieille mère avec un accent de défiance et d'inexprimable jalousie.
Sous vos ordres, ma mère, se hâta de dire la jeune fille, rougissant.
Non pas, non pas, insista Pitou, qui, du moment où il s'était lancé tout à fait.
Non pas, je fais la commission tout entière, monsieur Billot délègue et autorise mademoiselle Catherine en son lieu et place pour tout le travail et toutes les affaires de la maison.
Chacune de ces paroles, accentuée par la vérité, pénétrait dans le cœur de la ménagère. Et si bonne était cette nature qu'au lieu d'y verser une jalousie plus âcre et des colères plus brûlantes, la certitude de sa diminution la trouvait plus résignée, plus obéissante, plus pénétrée de l'infaillibilité de son mari.
Billot se pouvait-il tromper? Billot pouvait-il ne pas être obéi?
Voilà les deux seuls arguments que se donna la brave femme contre elle-même, et toute résistance cessa. Elle regarda sa fille, dans les yeux de laquelle elle ne vit que modestie, confiance, bonne volonté de réussir, tendresse et respect inaltérables. Elle céda absolument.
« Monsieur Billot a raison, dit-elle, Catherine est jeune, elle a bonne tête, elle est têtue même.
« Oh oui, fit Pitou, certain qu'il flattait l'amour-propre de Catherine, en même temps qu'il lui décochait une épigramme.
« Catherine, continua la mère Billot, sera plus à l'aise que moi sur les chemins. Elle saura mieux courir des jours entiers après les laboureurs. Elle vendra mieux, elle achètera plus sûrement. Elle saura se faire obéir, la fille. » Catherine sourit.
« Eh bien, continua la bonne femme, sans même avoir besoin d'étouffer un soupir, voilà que la Catherine va un peu courir les champs, voilà qu'elle va tenir la bourse, voilà qu'on va la voir toujours en route, voilà ma fille transformée en garçon. »
Et puis tout, d'un air capable, « Ne craignez rien pour mademoiselle Catherine, dit-il, je suis là, moi, et je l'accompagnerai partout. »
Cette offre gracieuse, sur laquelle Ange comptait probablement pour faire un effet, lui attira de la part de Catherine un si étrange regard qu'il fut tout interdit. La jeune fille rougit, non pas comme les femmes à qui l'on fait plaisir, mais de cette nuance couperosée qui, traduisant par un double symptôme la double opération de l'âme, sa cause première, accuse à la fois la colère et l'impatience, le désir de parler et le besoin de se taire.
Pitou n'était pas un homme du monde, lui, il ne sentait pas les nuances, mais, ayant compris que la rougeur de Catherine n'était pas un acquiescement complet,
« Quoi ? » dit-il, avec un sourire agréable qui découvrit ses puissantes dents sous ses grosses lèvres. «
Quoi ? Vous vous taisez, mademoiselle Catherine ?
Vous ignorez donc, monsieur Pitou, que vous avez dit une bêtise ?»«
Une bêtise ?» fit l'amoureux.
« Pardi ! » s'écria la mère Billot. « Voyez-vous ma fille Catherine avec un garde du corps ?»«
Mais enfin, dans les bois, » dit Pitou, avec un air si naïvement consciencieux, que c'eût été un crime d'en rire.
Cela est-il aussi dans les instructions de notre homme ? Continua la mère Billot, qui montra ainsi certaines dispositions à l'épigramme.
Oh ! Ajouta Catherine, ce serait un métier de paresseux que mon père ne peut pas avoir conseillé à monsieur Pitou et que monsieur Pitou n'aurait pas accepté de mon père.
Pitou roulait de gros yeux effarés de Catherine à la mère Billot. Tout son échafaudage croulait. Catherine, véritable femme, comprit la douloureuse déception de Pitou.
« Monsieur Pitou, dit-elle, est-ce à Paris que vous avez vu les jeunes filles se compromettre ainsi en traînant toujours des garçons derrière elles ?»«
Mais vous n'êtes pas une jeune fille, vous, articula Pitou, puisque vous êtes la maîtresse de la maison. » Allons, assez causé, dit brusquement la mère Billot. La maîtresse de la maison a bien des choses à faire. Viens, Catherine, que je te remette la maison selon les ordres de ton père.
Alors commença aux yeux de Pitou, ébahi, immobile, une cérémonie qui ne manqua ni de grandeur, ni de poésie dans sa rustique simplicité. La mère Billot tira ses clés du trousseau, les remit l'une après l'autre à Catherine et lui donna le compte fait du linge, des bouteilles, des meubles et des provisions. Elle conduisit sa fille au vieux secrétaire chiffonnier en marqueterie de l'année 1738 ou 1740, dans le secret duquel le père Billot enfermait ses papiers, ses louis d'or et tout le trésor des archives de la famille. Catherine se laissa gravement investir de l'omnipotence et des secrets. Elle questionna sa mère avec sagacité, réfléchit à chaque réponse et sembla, le renseignement une fois reçu, l'avoir enfermée dans les profondeurs de sa mémoire et de sa raison comme une arme réservée aux besoins de la lutte. Après l'examen des objets, la mère Billot passa aux bestiaux, dont on fit le recensement avec exactitude. Moutons valides ou malades, agneaux, chèvres, poules, pigeons, chevaux, bœufs et vaches. Mais ce fut là une simple formalité. La jeune fille, sur cette branche de l'exploitation, était depuis longtemps l'administrateur spécial. Nul mieux que Catherine ne connaissait la volaille au gloussement rude, les agneaux familiers avec elle au bout d'un mois, les pigeons qui la connaissaient si bien que souvent ils venaient l'enfermer en pleine cour dans les ellipses de leur vol, souvent aussi se poser sur son épaule après l'avoir saluée à ses pieds par le mouvement étrange de va-et-vient qui caractérise l'ours en ses rêveries. Les chevaux hennissaient quand s'approchait Catherine. Seule, elle savait faire obéir les plus fougueux. L'un d'eux, Poulain, élève de la ferme, est devenu un étalon inabordable, rompait tout dans l'écurie pour venir à Catherine chercher dans ses mains et ses poches la croûte de pain dur qu'il savait toujours trouver. Rien n'était beau et provoquant au sourire comme cette belle fille blonde aux grands yeux bleus, au col blanc, aux bras ronds, aux mains potelées, lorsqu'elle s'approchait, son tablier plein de grains, de la place nette auprès de la mare, de l'endroit où le sol, battu et salpêtré, sonnait sous le grain qu'elle y semait à poignée. Alors on eût vu tous les poussins, toutes les colombes, tous les agneaux libres se précipiter du côté de la mare, les coups de bec diaprés le sol, la langue rose des bouquetins léchait l'avoine ou le sarrasin croquant. Cette aile, noircie par les couches de grains, devenait en 2 minutes aussi blanche et aussi propre que l'assiette de faïence du moissonneur lorsqu'il a fini son repas. Certaines créatures humaines ont dans les yeux la fascination qui séduit ou la fascination qui épouvante, deux sensations tellement puissantes sur l'animal qu'il ne songe jamais à y résister. Qui de nous n'a pas vu le taureau farouche regarder mélancoliquement durant quelques minutes l'enfant qui lui sourit sans comprendre le danger? Il a pitié. Qui de nous n'a pas vu ce même taureau fixer un regard sournois et effaré sur un fermier robuste qui le couvre de l'œil et le tient en arrêt sous une menace muette? L'animal baisse le front, il semble se préparer au combat, mais ses pieds sont enracinés au sol, il frissonne, il a le vertige, il a peur. Catherine exerçait l'une de ses influences sur tout ce qui l'entourait. Elle était à la fois si calme et si ferme, il y avait tant de mansuétude et tant de volonté en elle, si peu de défiance, si peu de peur, que l'animal en face d'elle ne sentait pas la tentation d'une mauvaise pensée. Cette influence étrange, elle exerçait à plus forte raison sur les créatures pensantes. Le charme de cette vierge était irrésistible. Nul homme dans la contrée n'avait jamais souri en parlant de Catherine. Nul garçon n'avait contre elle une arrière-pensée. Ceux qui l'aimaient la désiraient pour femme, ceux qui ne l'aimaient pas l'eussent désirée pour sœur. Et Pitou, tête basse, main pendante, idée absente, suivait machinalement la jeune fille et sa mère dans leur excursion de recensement. On ne lui avait pas adressé la parole, il était là comme un garde de la tragédie, et son casque ne contribuait pas peu à lui en donner au propre la bizarre apparence.
On passa ensuite la revue des hommes et des servantes. La mère Billot fit former un demi-cercle au centre duquel elle se plaça. « Mes enfants, dit-elle, notre maître ne revient pas encore de Paris, mais il nous a choisi un maître à sa place. C'est ma fille Catherine que voici, toute jeune et toute forte. Moi, je suis vieille et j'ai la tête faible. Le maître a bien fait. La patronne à présent, c'est Catherine. L'argent, elle le donne et le reçoit. Ses ordres, je serai la première à les prendre et à les exécuter. Ceux de vous qui désobéiraient auraient affaire à elle. » Catherine n'ajouta pas un mot. Elle embrassa tendrement sa mère. L'effet de ce baiser fut plus grand que toutes les phrases. La mère Billot pleura, et Pitou fut attendri. Tous les serviteurs acclamèrent la nouvelle nomination. Aussitôt Catherine entra en fonction et distribua les services. Chacun reçut son mandat et partit pour l'exécuter avec le bon vouloir qu'on met au début d'un règne. Et Pitou, demeuré seul, finit par s'approcher de Catherine et lui dit « Et moi ?»« Tiens, répondit-elle, je n'ai rien à vous ordonner. »« Comment, je vais donc rester à rien faire ? Que voulez-vous faire ? Mais ce que je faisais avant de partir, vous étiez accueilli par ma mère. Mais vous êtes la maîtresse, donnez-moi de l'ouvrage. » « Je n'en ai pas pour vous, monsieur Ange. »« Pourquoi ? Parce que vous êtes un savant, un monsieur de Paris, à qui ces travaux rustiques ne conviennent pas. »« Est-il possible ?» fit Pitou. Catherine fit un signe qui voulait dire « C'est comme ça. »« Moi, un savant !» répéta Pitou. « Mais sans doute. Vous voyez donc mes bras, mademoiselle Catherine. »« N'importe. » « Enfin, mademoiselle Catherine, dit le pauvre garçon désespéré, pourquoi donc, sous prétexte que je suis un savant, me forceriez-vous de mourir de faim ? Vous ignorez donc que le philosophe Épictète servait pour manger, que le fabuliste Ésope gagnait son pain à la sueur de son front. C'était pourtant des gens plus savants que moi, ces deux messieurs-là. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Mais... « Monsieur Billot m'avait accepté pour être de la maison, mais il me renvoie de Paris pour en être encore. Soit, car mon père pouvait vous forcer à faire des ouvrages que moi et sa fille, je n'oserais vous imposer. »« Ne les imposez pas, mademoiselle Catherine. »« Oui, mais alors vous resterez dans l'oisiveté, et c'est ce que je ne saurais permettre. » Mon père avait le droit de faire, comme maître, ce qui m'est défendu à moi comme mandataire. J'administre son bien, il faut que son bien rapporte. Mais puisque je travaillerai, je rapporterai. Vous voyez bien, mademoiselle Catherine, que vous tournez dans un cercle vicieux. Qu'est-il ? Fit Catherine, qui ne comprenait pas les grandes phrases de Pitou. Qu'est-ce qu'un cercle vicieux ? On appelle cercle vicieux, mademoiselle, un mauvais raisonnement. Non, laissez-moi à la ferme et donnez-moi toutes les corvées que vous voulez. Vous verrez bien, alors, si je suis un savant et un fainéant. D'ailleurs, vous avez des livres à tenir, des registres à mettre en ordre. C'est ma spécialité, cette arithmétique. Ce n'est point, à mon avis, une occupation suffisante pour un homme, dit Catherine. Mais alors, je ne suis donc bon qu'à rien, s'écria Pitou. « Vivez toujours ici, » dit Catherine en se radoucissant. « Je réfléchirai et nous verrons. »« Vous demandez à réfléchir pour savoir si vous devez me garder. Mais que vous ai-je donc fait, mademoiselle Catherine ? Ah, vous n'étiez pas comme cela autrefois. » Catherine haussa imperceptiblement les épaules. Elle n'avait pas de bonnes raisons à donner à Pitou, et néanmoins il était évident que son insistance la fatiguait. Aussi, rompant la conversation, « Assez comme ça, monsieur Pitou, dit-elle, je vais à la Ferté-Milon. »« Ah, alors je cours seller votre cheval, mademoiselle Catherine. »« Pas du tout, restez au contraire. »« Vous refusez que je vous accompagne ?»« Restez, » dit Catherine impérieusement. Pitou demeura cloué à sa place, baissant la tête, en renvoyant en dedans une larme qui piquait sa paupière comme si elle eût été d'huile bouillante. Catherine laissa Pitou où il était, sortit, et donna à un valet de ferme l'ordre de seller son cheval. « Ah !» murmura Pitou, « vous me trouvez changé, mademoiselle Catherine, mais c'est vous qui l'avez été bien autrement que moi. » Cependant, la mère Billot, résignée aux fonctions de première servante, avait repris son ouvrage sans affectation, sans aigreur, de bonne volonté. Le mouvement, interrompu un instant dans toute la hiérarchie agricole, recommençait à animer l'intérieur de la ruche bourdonnante et travailleuse. Pendant qu'on préparait le cheval de Catherine, Catherine rentra, jeta un coup d'œil du côté de Pitou, dont le corps demeura immobile, mais dont la tête tourna comme une girouette suivant le mouvement de la jeune fille, jusqu'à ce que la jeune fille eût disparu dans sa chambre. Qu'allait faire Catherine dans sa chambre? Se demanda Pitou. Pauvre Pitou, ce qu'elle allait faire, elle allait se coiffer, mettre un bonnet blanc, passer un bas plus fin. Puis, quand ce supplément de toilette fut achevé, comme elle entendait son cheval qui piaffait sous la gouttière, elle rentra, embrassa sa mère et partit. Et Pitou, désœuvré, mal rassasié par ce petit coup d'œil, moitié indifférent, moitié miséricordieux, que Catherine lui avait adressé en partant, Pitou ne put se résoudre à demeurer ainsi dans la perplexité. Depuis que Pitou avait vu Catherine, il semblait à Pitou que la vie de Catherine lui fût absolument nécessaire. Et puis, outre cela, au fond de cet esprit lourd et dormeur, quelque chose comme un soupçon allait et venait avec la monotone régularité d'un balancier de pendule. C'est le propre des esprits naïfs de tout percevoir à des degrés égaux. Ces natures paresseuses ne sont pas moins sensibles que d'autres, seulement elles éprouvent mais n'analysent pas. L'analyse, c'est l'habitude de jouir et de souffrir. Il faut avoir pris une certaine habitude des sensations pour regarder leur bouillonnement au fond de cet abîme qu'on appelle le cœur humain. Il n'y a pas de vieillard naïf. Pitou, quand il eut entendu le pas du cheval qui s'éloignait, courut vers la porte. Il aperçut alors Catherine, suivant un petit chemin de traverse qui conduisait de la ferme à la grande route de la Ferté-Milon, et aboutissant au bas d'une petite montagne dont le sommet se perd dans la forêt. Du seuil de cette porte, il envoya à la belle jeune fille un adieu plein de regrets et d'humilité. Mais à peine cet adieu fut-il envoyé de la main et du cœur que Pitou réfléchit à une chose. Catherine avait bien pu lui défendre de l'accompagner, mais elle ne pouvait l'empêcher de le suivre. Catherine pouvait bien dire à Pitou « Je ne veux pas vous voir », mais elle ne pouvait pas dire à Pitou « Je vous défends de me regarder ». Et Pitou réfléchit donc que, puisqu'il n'avait rien à faire, rien ne l'empêchait au monde de longer sous bois le chemin qu'allait faire Catherine. Ainsi, sans être vu, il la verrait de loin, à travers les arbres. Il n'y avait qu'une lieue et demie de la ferme à la Ferté-Milon. Une lieue et demie pour aller, une lieue et demie pour revenir, qu'était-ce que cela pour Pitou? D'ailleurs, Catherine rejoignit la route par une ligne faisant angle avec la forêt. En prenant la perpendiculaire, Pitou économisait un quart de lieue. Restait donc 2 lieues et demie seulement pour aller à la Ferté-Milon et revenir. 2 lieues et demie, c'était une véritable bouchée de chemin à avaler pour un homme qui semblait avoir dévalisé le petit pousset ou lui avait pris les bottes que le même petit pousset avait prises à l'ogre. À peine Pitou eut-il arrêté ce projet dans son esprit qu'il le mit à exécution. Tandis que Catherine gagnait la grande route, lui, Pitou, courbé derrière les grands seigles, gagnait la forêt. En un instant, il fut à la lisière, et une fois à la lisière, il sauta le fossé de la forêt et s'élança sous bois, moins gracieux mais aussi rapide qu'un chevreuil effarouché. Il courut un quart d'heure ainsi, et au bout d'un quart d'heure, il aperçut l'éclaircie que faisait la route. Là, il s'arrêta, s'appuyant à un énorme chêne qui le cachait presque entièrement derrière son tronc rugueux. Il était bien sûr d'avoir devancé Catherine. Et cependant, il attendit 10 minutes, un quart d'heure même, et ne vit personne. Avait-elle oublié quelque chose à la ferme? Y était-elle retournée? C'était possible. Avec les plus grandes précautions, Pitou se rapprocha de la route, allongea sa tête derrière un gros hêtre qui poussait dans le fossé même, appartenant moitié à la route, moitié à la forêt, étendit son regard jusqu'à la plaine que la rigidité de la ligne lui permettait d'apercevoir, et ne vit rien. Catherine avait oublié quelque chose, elle était revenue à la ferme. Pitou reprit sa course, ou elle n'était pas encore arrivée et il la verrait rentrer, ou elle était arrivée et il l'enverrait sortir. Pitou ouvrit le compas de ses longues jambes et se mit à arpenter l'espace qui le séparait de la plaine. Il courait sur le revers sablonneux de la route, plus doux à ses pas, quand tout à coup il s'arrêta. Pitou leva les yeux et, à l'extrémité opposée de la route, il aperçut, noyé à une grande distance dans l'horizon bleuâtre de la forêt, le cheval blanc et le casaquin rouge de Catherine. Le cheval de Catherine marchait l'amble. Le cheval, marchant l'amble, avait quitté la grande route et avait quitté le revers du chemin pour suivre une petite sente à l'entrée de laquelle on lisait sur un poteau « Sente conduisant de la route de la Ferté-Milon à Boursonne ». C'était une grande distance, nous l'avons dit, mais on sait qu'il n'y avait pas de distance pour Pitou. « Ah !» s'écria Pitou en s'élançant de nouveau dans la forêt, « ce n'est pas à la Ferté-Milon qu'elle va, c'est donc à Boursonne. » Cependant, je me trompe pas, elle a dit la Ferté-Milon plus de 10 fois. On lui a donné des commissions pour la Ferté-Milon. La mère Billot elle-même a parlé de la Ferté-Milon. Et tout en disant ces paroles, Pitou courait toujours. Pitou courait de plus en plus. Pitou courait comme un dératé. Car Pitou, poussé par le doute, cette première moitié de la jalousie, Pitou n'était plus un simple bipède. Pitou semblait être une de ces machines ailées, comme Dédale en particulier, ou en général les grands mécaniciens de l'Antiquité, les rêvèrent si bien et les exécutèrent, hélas, si mal. Il ressemblait à s'y méprendre à ces bons hommes de paille, aux bras de chalumeaux, que le vent faisait tourner aux étalages des marchands de jouets d'enfants. Bras, jambes, tête, tout remue, tout tourne, tout vole. Les jambes immenses de Pitou marquaient des angles de 5 pieds de large à leur plus grande ouverture. Ses mains, pareilles à 2 battoirs emmanchés d'un bâton, poussaient l'air comme des rames. Sa tête, toute bouche, toute narine et tout yeux, absorbait l'air qu'elle entvoyait en souffle bruyant. Aucun cheval n'eût été animé de cette rage de courir. Aucun lion n'eût eu cette volonté féroce d'atteindre sa proie. Pitou avait plus d'une demi-lieue à faire quand il aperçut Catherine. Il ne lui laissa pas le temps de faire 1/4 lieue, tandis que lui absorba cette demi-lieue. Sa course avait donc acquis le double de la rapidité de celle d'un cheval au trot. Enfin, il arriva à atteindre une ligne parallèle à la sienne. Ce n'était plus pour voir simplement Catherine que Pitou la suivait, c'était pour la surveiller. Elle avait menti. Dans quel but? N'importe. Pour reconquérir sur elle une certaine supériorité, il fallait la surprendre en flagrant délit de mensonge. Pitou donna tête baissée dans les fougères et dans les épines, brisant les obstacles de son casque et employant son sabre au besoin. Cependant, comme Catherine n'allait plus qu'au pas, de temps en temps le bruit des branches brisées arrivait jusqu'à elle et faisait tout à la fois dresser l'oreille au cheval et à la maîtresse. Alors Pitou, qui ne perdait pas Catherine des yeux, Pitou s'arrêtait en reprenant haleine, il détruisait le soupçon. Cependant, cela ne pouvait pas durer, aussi cela ne dura-t-il pas. Pitou entendit tout à coup hennir le cheval de Catherine, et à ce hennissement, un autre cheval répondit. On ne pouvait pas encore voir le second cheval qui hennissait, mais quel qu'il fût, Catherine frappa Cadet de sa badine de houx, et Cadet, qui avait soufflé un instant, reprit le grand trot. Au bout de 5 minutes, grâce à cette augmentation de vitesse, elle avait rejoint un cavalier, qui a couru lui-même au-devant d'elle avec autant d'empressement qu'elle en avait mis à venir au-devant de lui. Le mouvement de Catherine avait été si rapide et si inattendu que le pauvre Pitou était resté immobile, debout, à la même place, se haussant seulement sur la pointe des pieds pour voir de plus loin. C'était bien loin pour voir, mais s'il ne les vit pas, ce que Pitou sentit comme une commotion électrique, ce fut la joie et la rougeur de la jeune fille, ce fut le tressaillement qui agita tout son corps, ce fut le pétillement de ses yeux si doux, si calmes d'ordinaire, si étincelants alors. il ne vit pas non plus quel était ce cavalier au point de distinguer ses traits, mais, reconnaissant à sa tournure, à sa redingote de chasse de velours vert, à son chapeau à large ganse, à son port de tête libre et gracieux, qui devait appartenir à la classe la plus élevée de la société, son esprit se reporta à l'instant même à ce beau jeune homme, à ce beau danseur de Villers-Cotterêts. Son cœur, sa bouche, toutes les fibres de ses entrailles tressaillirent à la fois, murmurèrent le nom d'Isidore de Charny. C'était bien lui, en effet. Pitou poussa un soupir qui ressemblait à un rugissement, et, s'enfonçant de nouveau dans le fourré, il parvint jusqu'à la distance de 20 pas des deux jeunes gens, trop attentionnés alors l'un à l'autre pour s'inquiéter si le bruit qu'ils entendaient était causé par le fourragement d'un quadrupède ou d'un bipède. Le jeune homme, cependant, se retourna du côté de Pitou, se haussa sur les étriers et jeta un regard vague autour de lui. Mais à l'instant même, pour échapper à l'investigation, Pitou s'aplatit, le ventre et la face contre terre. Puis, comme un serpent, il se glissa pendant l'espace de 10 pas encore, et, arrivé à la portée de voix, il écouta. « Bonjour, monsieur Isidore, » disait Catherine. « Monsieur Isidore, » murmura Pitou, « je le savais bien, moi. » Alors il sentit par toute sa personne l'immense fatigue de tout ce travail que le doute, la défiance et la jalousie lui avaient fait faire depuis 1 heure. Les deux jeunes gens, en face l'un de l'autre, avaient chacun de son côté lâché la bride et s'étaient pris les mains. Ils se tenaient debout et frémissants, muets et souriants, tandis que les deux chevaux, habitués sans doute l'un à l'autre, se caressaient des naseaux et jouaient avec leurs pieds sur la mousse de la route. « Vous êtes en retard aujourd'hui, monsieur Isidore, » fit Catherine en rompant le silence. « Aujourd'hui, » fit Pitou, « il paraît que les autres jours, il n'est pas en retard. « Ce n'est pas ma faute, chère Catherine, » répliqua le jeune homme, « mais j'ai été retenu par une lettre de mon frère qui m'est arrivée ce matin et à laquelle j'ai dû répondre courrier par courrier, mais ne craignez rien, demain je serai plus exact. » Catherine sourit et Isidore serra encore un peu plus tendrement la main qu'on lui abandonnait. Hélas, c'était autant d'épines qui faisaient saigner le cœur du pauvre Pitou. « Vous avez donc des nouvelles fraîches de Paris ?» demanda-t-elle. « Oui. »« Eh bien, moi aussi, » dit-elle en souriant. « Ne m'avez-vous pas dit l'autre jour que lorsque quelque chose de pareil arrivait à deux personnes qui s'aimaient, cela s'appelait de la sympathie ?»« Justement, et comment avez-vous reçu des nouvelles, vous, ma belle Catherine ?»« Par Pitou. » « Qu'est-ce que cela, Pitou ?» demanda le jeune homme, avec un air libre et enjoué qui changea en cramoisi le rouge déjà étendu sur les rouges de Pitou. « Mais vous savez bien, dit-elle, Pitou, c'est ce pauvre garçon que mon père avait pris à la ferme et qui me donnait le bras un dimanche. « Ah oui, » dit le gentilhomme, « celui qui a deux genoux comme des nœuds de serviette. » Catherine se mit à rire. Et Pitou se sentit humilié, désespéré. Il regarda ses genoux, pareils à des nœuds en effet, en s'appuyant sur ses deux mains et en se soulevant. Puis il retomba à plat ventre avec un soupir. « Voyons, dit Catherine, ne me déchirez pas trop, mon pauvre Pitou. Savez-vous ce qu'il me proposait tout à l'heure ?»« Non, comptez-moi un peu cela, ma toute belle. Eh bien, il voulait m'accompagner à la Ferté-Milon. Où vous n'allez pas ?»« Non !» puisque je savais que vous m'attendiez ici, tandis que c'est moi qui vous ai presque attendu. Mais savez-vous que vous venez de dire là un mot royal, Catherine ? Vraiment, je ne m'en doutais pas. Pourquoi n'avez-vous pas accepté l'offre de ce beau chevalier ? Il nous eût divertis. Pas toujours, peut-être, répondit en riant Catherine. « Vous avez raison, Catherine, » dit Isidore, en attachant sur la belle fermière des yeux brillants d'amour, et il cacha la tête rougissante de la jeune fille dans ses bras qu'il ferma sur elle. Pitou ferma les yeux pour ne pas voir, mais il avait oublié de fermer les oreilles pour ne pas entendre. Le bruit d'un baiser arriva jusqu'à lui. Pitou se prit les cheveux avec désespoir, comme fait le pestiféré dans le premier plan du tableau de Gros représentant Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa. Lorsque Pitou revint à lui, les jeunes gens avaient remis leurs chevaux au pas et s'éloignaient lentement. Les dernières paroles que Pitou put entendre furent celles-ci. « Oh, vous avez raison, monsieur Isidore, promenons-nous une heure, je rattraperai cette heure sur les jambes de mon cheval, et, ajouta-t-elle en riant, c'est une bonne bête, qui n'en dira rien. » Ce fut tout, la vision s'éteignit, l'obscurité se fit dans l'âme de Pitou comme elle se faisait dans la nature, et, se roulant dans la bruyère, le pauvre garçon se laissa aller aux élans naïfs de la douleur. La fraîcheur de la nuit le rendit à lui-même. « Je ne retournerai pas à la ferme, dit-il, j'y serai humilié, bafoué. J'y mangerai le pain d'une femme qui aime un autre homme, et un homme, je dois l'avouer, qui est plus beau, plus riche et plus élégant que moi. Non, ma place n'est plus à Pisle, mais à Aramon, dans mon pays, où je trouverai peut-être des gens qui ne s'apercevront pas que j'ai les genoux faits comme des nœuds de serviette. » Cela dit, Pitou frotta ses bonnes longues jambes et s'achemina vers Aramon, où, sans qu'il s'en doutât, sa réputation et celle de son casque et de son sabre l'avaient précédé et où l'attendait, sinon le bonheur, du moins de glorieuses destinées. Mais, on le sait, ce n'est point l'attribut de l'humanité d'être parfaitement heureuse.